J'aime pas lire. J'aime pas lire. J'aime pas lire.
Bonsoir, bienvenue sur Radio Canu 102.2 FM à Lyon, radiocanu.org si vous nous suivez sur le web. Nous sommes le lundi 3 novembre 2025 dans J'aime pas lire. Et ce soir, comme nous n'avons pas d'invité, je vous propose de reprendre là où on l'avait laissé la dernière fois. Et pour un troisième épisode, le roman de Faith Hagen, Kif Kif Demain, un roman qu'elle a fait paraître en 2004, et que nous agrémenterons de quelques pauses musicales. L'épisode 3, pardon, de Kif Kif Demain, c'est maintenant. Et j'en suis à la page 83 de l'édition Livre de Poche. Let's go. Aziz, il est sympa, mais dans son épicerie, t'as une chance sur trois de tomber sur des produits périmés. Donc parfois, je vais à Malistar, une toute petite supérette qui existe depuis des années, même si elle a changé de nom plein de fois. Au moins 10 baptêmes différents depuis que j'habite ici. World Provisions, Better Price, tout y prix. Le problème, c'est que tout le monde l'appelle différemment ce magasin, en fonction du nom qu'il l'a marqué. Donc, je suis allé à Malistar pour acheter des serviettes hygiéniques. Celles sans marque, avec le paquet orange fluo, comme les combinaisons des dames qui font traverser les enfants devant l'école tôt le matin. Déjà, vu l'aspect du paquet, c'est trop l'affiche. T'es vraiment pas en planque. Après, dans la cité, tout le monde sait que t'as tes règles. Au moment où j'arrive à la caisse, comme par hasard, la queue fait la distance du Paris-Dakar. Et en vélo, parce que ça allait vraiment pas vite. Quand arrive enfin mon tour, encore un autre hasard de la vie, le paquet ne passe pas à la caisse. Ça faisait un bruit de 45 tours rayés à chaque fois que la caissière essayait. La caissière, c'est Monique, et on peut vraiment dire qu'elle a la gueule de l'emploi. Elle est si plate qu'on pourrait la faxer et à sa place, j'aurais porté plainte contre le coiffeur qui a osé faire cette coupe. Monique a beaucoup d'humour, et elle doit ça aux cassettes vidéo de Pierre Palmade, qu'elle visionne tous les dimanches après-midi. Bref, ce foutu paquet de serviettes, comme Monique n'arrivait toujours pas à le passer, et qu'elle en avait marre, au lieu de taper le code barre comme ils font à Attaque, elle a pris le micro pour faire une annonce. Là, mes jambes ont commencé à trembler, et des perles de sueur me coulaient sur le front, comme des démineurs de bombes avant de couper le fil rouge. Elle crie alors de sa voix grave. Elle avait pas compris que ça servait à rien de crier, puisque c'est fait pour ça un micro à la base. « Raymond, c'est combien le paquet de serviettes hygiéniques de 24 plus 2 gratuites, modèle normal avec coussinet absorbant et ailette latérale protectrice ?» Elle hésite un peu et reprend. « Oh, Raymond, tu dors ou quoi ?» Là, on a entendu une voix diabolique s'exclamer que ce putain de paquet valait 2,38€. Le pire, c'est que j'avais même pas assez pour le payer et qu'elle m'a fait crédit. Si j'avais su, j'aurais même pas eu mes règles. Quand je suis rentré à la maison, maman était encore au téléphone avec tante Zora. Youssef va bientôt passer en jugement. C'est pour ça qu'elle est aussi inquiète. Alors tante Zora appelle souvent maman, même tard le soir, parce qu'elle a du mal à s'endormir. Toutes les deux, elles ont de longues conversations, pleines de silence. Je le sais, parce que maman met la fonction haut-parleur. Je te jure, Yasmina, ma sœur, tu as de la chance de ne pas avoir eu de fils. Dieu est avec toi, tu ne te rends pas compte. Enfin, je veux dire qu'avec une fille, c'est plus facile. Tu sais, j'avais jamais vu mon fils pleurer. Hier, à la visite, il a pleuré dans mes bras, comme une femme. J'ai mal au cœur, tu sais. Que Dieu te vienne en aide. Qu'il t'entende, ma sœur. Qu'est-ce que je vais dire au vieux quand il va revenir du bled, moi? Il rentre dans 2 mois. Prie Dieu que ton fils te revienne vite. On dirait que toutes les deux comptent beaucoup sur Dieu. J'espère que Youssef sera libre très vite. Il ne mérite pas toutes ces conneries qui lui arrivent. Moi, j'y connais pas grand-chose à la justice. Les seules références que j'ai dans ce domaine, c'est les épisodes de Perry Mason. Le grand avocat. Je me rappelle même qu'il y avait un juge qui s'endormait pendant les procès, et les gens l'appelaient quand même Votre Honneur. J'y comprends plus rien à cette justice. Pas juste, si Youssef va en prison. Il est tombé. Il en a pris pour 1 an. Tanzora est dégoûtée de la vie. Elle a surtout très peur de son mari, le vieux fou, quand il va rentrer du pays le mois prochain. Reda et Hamza, ses 2 autres fils, ils sont en chute libre à l'école. Et ils se battent avec les mecs de leur âge au quartier, parce qu'ils se font souvent traiter de bâtards, vu que leur père n'est pratiquement jamais là. Pour Youssef, c'est la casse-prison. Et même s'il s'est souvent moqué de moi, il méritait vraiment pas de perdre 1 an de sa vie aussi bêtement. C'est comme Hamoudi. Après la prison, il a fait de l'intérim et plein de petits boulots de merde, aussi galères les uns que les autres. Il a jamais vraiment réussi à se rattraper depuis. Maintenant, il vit du deal et peut pas mener une vie normale. La retraite et la sécu spécial dealer, ça n'existe pas encore. En tout cas, j'aurais jamais imaginé que ça puisse arriver à Youssef. Une voyante me l'aurait dit il y a quelques mois, je l'aurais pas cru. Ma mère m'a raconté qu'au pays, quand elle était encore chez ses parents, sa tante et une voisine l'ont emmenée chez une voyante. Tout le monde s'inquiétait parce que maman refusait de se marier. La voyante lui avait dit que l'homme qui lui était destiné allait venir la chercher de l'autre côté de la mer et que c'était un homme qui travaillait la terre et la pierre. En fait, c'était juste mon père. C'est vrai, il est venu la chercher de l'autre côté de la mer, de France et en bateau. Parce que ça coûtait moins cher que l'avion. C'est vrai aussi qu'il travaillait avec la terre et la pierre, puisqu'à l'époque, il était dans le BTP, bâtiment travaux publics. Sauf que la voyante, elle a un peu oublié de lui raconter comment ça allait se finir. Ces gens-là te disent que ce que tu veux entendre. Comme pour Chérif. Chérif, c'est un mec de la cité. Il est arrivé de Tunisie il y a environ 6 ans. Tout le monde le surnomme Chérif parce qu'il a une vraie dégaine de cow-boy. En plus, il porte tout le temps une casquette rouge, frappée d'une étoile. Avec ses cheveux noirs et sa moustache, on le croirait tout droit sorti d'un western. Ce type-là est allé voir une voyante qui lui a dit qu'il deviendrait bientôt très riche. Ça fait des années qu'elle lui a dit ça. Elle aurait peut-être dû lui préciser ce qu'elle entendait par « bientôt ». Bref, depuis ce jour, Chérif, il joue tous les jours au tiercé, et il y croit à mort. Pour attendre les résultats, il va au bar tabac de la petite place. Et comme il se perd à chaque fois, il devient nerveux. Chérif, c'est un méditerranéen, quoi. Quand il gagne pas, c'est-à-dire à tous les coups, il chiffonne sa casquette, gueule des insultes en arabe et s'en va. C'est comme ça depuis très longtemps. Des fois, je me dis que la vie, c'est vraiment un coup de chance quand même. On trouve qu'on n'a pas de bol, mais on pense pas aux gens qui en ont encore moins que nous. Si, si, ça existe. Par exemple, ce môme qui était avec moi à l'école primaire et qui se faisait tout le temps taper dessus. Un petit blond à lunettes, abonné au premier rang et qui avait tout le temps des bonnes notes en classe. Apportait des crêpes à la maîtresse pour mardi gras et mangeait du porc à la cantine. La victime idéale. Maman a commencé sa nouvelle formation. Ça lui plaît bien à ce qu'elle me raconte. Elle a même déjà sympathisé avec 2 autres femmes. Une Marocaine de Tanger et une grand-mère normande qui s'appelle Jekyline. J'ai supposé que c'était Jacqueline, la formatrice. Je me rends compte que ma mère est quelqu'un de sociable, contrairement à moi. Quand j'étais petite et que maman m'emmenait au bac à sable, aucun enfant ne voulait jouer avec moi. J'appelais ça le bac à sable des Français, parce qu'il se trouvait au cœur de la zone pavillonnaire et qu'il y avait surtout des familles d'origine française qui y habitaient. Une fois, ils faisaient tous une ronde, et ils ont refusé de me donner la main parce que c'était le lendemain de l'Aïd, la fête du mouton, et que maman m'avait mis du henné sur la paume de la main droite. ses petites têtes à claques croyaient que j'étais sale. Il n'avait rien compris à la mixité sociale et au mélange des cultures. En même temps, c'est vraiment pas de leur faute. Il y a quand même une séparation bien marquée entre la cité du paradis, où j'habite, et la zone pavillonnaire Rousseau. Des grillages immenses qui sentent la rouille tellement ils sont vieux, et un mur de pierre tout le long. Pire que la ligne Maginot ou le mur de Berlin. Sur la façade du côté de la cité, il y a plein de tags, des dessins et des affiches de concerts et soirées orientales diverses. Des graffitis à la gloire de Saddam Hussein ou de Che Guevara. Des marques de patriotisme, Viva Tunisia, Sénégal représente. Et même des phrases extraites de chansons de rap à coloration philosophique. Mais moi, ce que je préfère sur le mur, c'est un vieux dessin qui est là depuis longtemps, bien avant l'ascension du rap ou le début de la guerre en Irak. Il représente un ange menotté avec une croix rouge sur la bouche. Dans mon immeuble, il y a une fille qui est détenue au 11e étage. Elle s'appelle Samra et elle a 19 ans. Son frère la suit partout. Il l'empêche de sortir. Et quand elle rentre un petit peu plus tard que d'habitude des cours, il la ramène par les cheveux et le père finit le travail. Une fois, j'ai même entendu Samra crier parce qu'il l'avait enfermée dans l'appartement. Dans leur famille, les hommes, c'est les rois. Ils font de la haute surveillance avec Samra et la mère ne peut rien dire, rien faire. À croire que c'est vraiment la poisse, c'est une fille. Sauf qu'il y a quelques jours, des voisins ont dit à maman que Samra s'était sauvée. Depuis 3 semaines, tout le monde la cherche. Son père a même déposé une main courante pour la retrouver. Ils ont collé des affiches dans les environs, les magasins, la poste, les halls des tours, les écoles. La photo date de quand Samra était en 6e. L'appareil dentaire, ça rend pas très bien à la photocopieuse. Ça me fait penser à cette émission avec Jacques Pradel, où il retrouvait des gens, perdus de vue. Il y avait même des mecs qui n'avaient pas revu des membres de leur famille depuis plus de 20 ans. Cette émission, c'était trop fort. Ils réussissaient à les retrouver, même s'ils avaient changé de gueule, de nom et tout. À part quand ils étaient morts, ça marchait carrément à tous les coups. Après, quand ils faisaient les retrouvailles, les gens chialaient, s'évanouissaient. Ça donnait un côté spectaculaire à l'émission. Une fois, ils ont retrouvé un cousin à Sydney, en Australie. Ils ont filmé sa baraque, sa nouvelle famille, son nouveau boulot et tout ça. J'ai trouvé que c'était pas cool pour le mec qui souffre de la disparition depuis des années, qui s'est cassé la tête pour le retrouver et qui se rend compte qu'en fait, l'autre cousin, il en avait rien à foutre et qu'il a une nouvelle vie géniale. Bref, en tout cas, en ce moment, dans le quartier, tout le monde ne parle que de la disparition de Samra. On dit même que des gens l'ont vue à Paris, avec du ventre, genre elle est déjà enceinte. La rumeur circule de l'épicerie à la sortie des écoles, en passant par le pressing. Quand Samra était enfermée chez elle, dans sa cage en béton, personne n'en parlait, comme si les gens trouvaient ça normal. Et maintenant qu'elle a réussi à se libérer de son dictateur de frère et de son tortionnaire de père, les gens l'accusent. J'y comprends rien. Youssef, lui, il peut pas s'échapper. Tante Zora nous a encore téléphoné pour raconter la dernière visite. Elle n'arrête pas de nous dire qu'il maigrit et que ses yeux sont vides. Elle ne reconnaît plus son fils, et je crois bien que ça lui fait peur. Mais quand même, je trouve qu'elle devient plus courageuse. Elle affronte mieux cette épreuve qu'au début. Il lui fallait un peu de temps pour s'y faire, c'est tout. C'est horrible de se dire qu'à force de subir, on peut s'habituer à tout, et particulièrement au pire. Dans 2 semaines, le père de Youssef revient du bled, et je me demande vraiment comment ça va se passer. Maman aide Tante Zora à préparer une tactique. Elle dit que tout est dans la manière d'annoncer la chose. Pour les mauvaises nouvelles, il faut s'inspirer de la télé, du courage et du tact de Gabi dans Sunset Beach quand elle annonce à son con de mari qu'elle l'a trompé avec son propre frère. En plus, il était prêtre, le frère. Encore pire. Alors à côté de ça, annoncer au père de Youssef que son gosse est en prison jusqu'au printemps prochain, c'est du gâteau. Comme lorsque je vais annoncer à maman que je redouble ma classe cette année. Il faudrait d'abord que je lui explique ce que ça veut dire, redoubler, parce que le système scolaire, elle y comprend vraiment rien. Et que je lui dise ensuite que c'est pour mieux réussir. Pour elle, réussir, c'est travailler dans un bureau où il y a une chaise qui tourne et qui roule, avec un téléphone et un chauffage pas loin du fauteuil qui tourne et qui roule. L'autre soir, je suis restée un peu sur le palier à discuter avec Amoudi. On parlait des parents et de la crise d'adolescence, parce que Madame Burlot m'a expliqué ce que ça voulait dire. Amoudi, il pense que c'est rien qu'un prétexte, un truc de parents occidentaux qui ont raté l'éducation de leurs enfants. Je ne suis pas d'accord avec lui. Parfois, Amoudi, il va vraiment à l'extrême. Il m'a dit que lui, il n'avait pas intérêt à faire ne serait-ce qu'un dixième de crise d'adolescence, parce que son père aurait tout de suite su comment la calmer. Il m'a dit aussi qu'avec Karine, l'autre blondasse que j'avais vue à la kermesse, c'était terminé. Quand il a dit ça, il avait un peu de tristesse dans la voix. Je sais que c'est pas bien, mais au fond, ça m'a fait un peu plaisir. Je me disais qu'avec Amoudi, ça allait redevenir comme avant. Pour le consoler, je lui ai dit que de toute façon, elle avait une tête en forme de frisbee. Ça l'a bien fait marrer. Par contre, il ne m'a pas dit pourquoi ils se sont séparés. Je crois pas qu'elle l'ait trompé avec le frère d'Amoudi, qui n'est pas prêtre. Il me l'a pas dit parce qu'il pense que ce sont des histoires d'adultes et que ça me regarde pas. C'est pas tout à fait faux. L'autre soir, ce gros nul de Nabil est venu m'aider à faire mon devoir d'éducation civique. Le sujet ressemblait à un titre de reportage d'Envoyé spécial. L'abstention, pourquoi ? Avec Nabil, le nul, on en a discuté. Il pense par exemple qu'un mec de la Cité du Paradis, qui ne va plus à l'école depuis longtemps, qui n'arrive pas à trouver du boulot, dont les parents ne travaillent pas et qui partage sa chambre avec ses quatre petits frères, qu'est-ce qu'il en a à foutre de voler ? Il a raison, Nabil. Le type doit déjà se battre pour survivre au quotidien. Alors son devoir de citoyen, si la situation s'améliorait pour lui, il pourrait avoir envie de se bouger et de voter. En plus, je vois pas très bien par qui il pourrait se sentir représenté. Et ben voilà, c'est à ce type-là qu'il faut demander l'abstention, pourquoi ? Pas une classe de boutonneux de 15 ans. Je me dis que c'est peut-être pour ça que les cités sont laissées à l'abandon. Parce que ici, peu de gens votent. On n'est d'aucune utilité politique si on vote pas. Moi, à 18 ans, j'irai voter. Ici, on n'a jamais la parole. Alors quand on nous la donne, il faut la prendre. Bref, ce soir-là, Nabil, au lieu de partir dès qu'on a eu fini et de rentrer chez sa mère, il restait là, il parlait, tout en finissant le paquet de crackers qui était sur la table. Je croyais qu'il allait faire la semaine mes crackers, mais bon, tant pis. Quand enfin ce nulard s'est décidé à dégager, je l'ai raccompagné, et à la porte d'entrée, il a soudainement changé d'expression. Il a pris sa tête sérieuse, s'est avancé vers moi et m'a fait une bise sur la bouche, en vrai. Non seulement il bouffe tous mes crackers, mais en plus il ose m'embrasser sans me demander mon avis. Le pire, c'est que comme une mule, j'ai rien trouvé à dire. Je suis juste devenue toute rouge comme les poivrons que ma mère prépare en sauce et j'ai bafouillé un « salut » à peine audible en refermant la porte. Après ça, j'ai couru boire un grand verre de sirop de menthe et je me suis brossé les dents deux fois pour faire partir le goût de Nabil. Qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Je pourrais peut-être essayer de faire croire à tout le monde qu'après une chute de vélo, j'ai perdu connaissance et me suis réveillé amnésique, que je ne me souviens plus de rien, mais alors de rien du tout. Le problème, c'est que ça va pas être très crédible. Tout le monde sait que j'ai pas de vélo et pas les moyens de m'en acheter un. Ou alors je pourrais faire de la chirurgie esthétique et devenir quelqu'un d'autre pour qu'ils ne me reconnaissent pas et qu'ils ne recommencent jamais à coller ces grosses lèvres gercées sur les miennes. Berk. Ça ressemble vraiment pas à ce que j'avais imaginé pour mon premier baiser. Non, moi je voyais plutôt ça dans un décor de rêve, au bord d'un lac, en forêt, au soleil couchant, avec un super type qui ressemblerait un peu au mec qui joue dans la pub pour les vitamines, celui qui fait un demi-tour sur sa chaise, se met bien en face à la caméra avec son sourire dentifrice et fait « Si j'y vais bien, c'est juvamine ». Le mec, il serait en train de m'expliquer comment on fait du feu avec une lime à ongles et un caillou quand, au milieu de notre entretien philosophique, on irait l'un vers l'autre, tout doucement, et on s'embrasserait, naturellement, comme si on le faisait depuis toujours. Bien sûr, quand j'imagine cette scène, moi, je suis bien coiffée, bien habillée, et j'ai un peu plus de poitrine. L'histoire de la bouche de Nabil, personne n'est au courant. Trop l'affiche. Même pas Madame Burlot, et surtout pas maman. Si elle apprend ça, elle me tue. Je lui en veux à Nabil de m'avoir volé mon premier baiser et d'avoir descendu mon paquet de biscuits salés. Mais pas autant que je croyais que je lui en voudrais. Enfin, je me comprends. Lundi, chez Madame Burlot, on a fait un nouveau truc, comme un jeu. Elle me montrait des photos en grand format, elle les faisait défiler assez rapidement, et moi je devais dire j'aime ou j'aime pas. La plupart du temps, comme ça allait vite, je répondais mécaniquement, sans avoir eu le temps de réfléchir. Alors par exemple, je me suis retrouvée à dire j'aime pas pour la photo d'un petit bébé. Madame Burlot, comme par hasard, elle s'est arrêtée sur cette photo-là. Comme si je l'avais pas vue venir, elle a commencé à me parler de mon supposé demi-petit frère. Inconsciemment, ce serait pour ça que j'ai dit « j'aime pas ». Maintenant, avec maman, on sait que c'est un garçon. Une voisine du Maroc nous a envoyé une lettre à la maison. Comme pour l'humilier encore plus, la lettre était en français. J'ai dû la lui lire. Mais sérieux, pourquoi chercher midi à 14h ? J'ai dit à Madame Burlot que ça n'avait rien à voir C'était juste que ça allait trop vite et que j'avais pas bien regardé l'image. Je me suis trompée, c'est tout. Puis merde, on n'est pas obligé d'aimer les bébés. Un bébé, ça pleure sans arrêt, ça pue, ça bave, ça fait caca. Surtout que le bébé de la photo, il était trop vilain. Il était en forme de croissant au beurre. Et puis l'autre mouflé, c'est pas mon frère. C'est juste le fils de mon barbu de père. C'est pas pareil. Franchement, Madame Burlot, elle est relou quand elle fait celle qui a la réponse à tout et qu'elle affiche son sourire satisfait comme Harrison Ford à la fin de tous les épisodes d'Indiana Jones. En ce moment, elle me dit sans arrêt que je grandis et que c'est normal que je me pose des questions. Je grandis. Putain, faut qu'elle change de lunettes. Ça fait un moment que je suis à 1m60 et que je bouge pas. Ou alors peut-être qu'elle voulait dire grandir dans ma tête. Ça devait être ça.
No love, no peace, no shoes on my feet, no home, just a shack where I sleep. Take me back to my land with no shoes, oh wind. Wind blowing east, I'm the cry of the slave. Wind blowing east, carry tears, pain and grief from this land where I hold my knees. Oh, oh, oh God. Wind in my brain,
Lila, pour mesurer Sarah, elle fait des marques au crayon noir sur la porte de sa chambre et inscrit les dates à côté. C'est marrant, ça fait plein de petits traits les uns au-dessus des autres. Quand elle sera plus grande, ça lui fera sûrement plaisir de revoir ça. En plus, chez Sarah, il y a plein de photos d'elle depuis qu'elle est toute petite, jusqu'à maintenant. Elle en a de la chance. J'ai aucune photo de moi jusqu'à l'âge de 3 ans. Après, ce sont les photos d'école. Ça me rend triste de repenser à ça. J'ai l'impression de ne pas exister complètement. Je suis sûre que si j'avais eu un zizi, j'aurais eu une grosse pile d'albums photos. Un jour, en revenant du centre de loisirs avec Sarah, on est passé dire bonjour à Hamoudi. « Alors, princesse, c'est toi, Sarah ?»« Oui. T'es vraiment mignonne avec ta petite robe rose, on dirait une fée. Eh ben toi, t'as des pas belles dents. » Faut demander à la petite souris reine des dents qu'elle s'occupe de toi. J'ai un peu grondé Sarah. Je lui ai dit que c'était pas gentil de parler comme ça. Mais Hamoudi s'en foutait. Au contraire, ça l'a fait mourir de rire. Bon, c'est pas faux qu'Hamoudi a les dents un petit peu abîmées. Mais c'est vraiment pas catastrophique. Et puis c'est normal, après tout ce qu'il fume depuis des années. N'empêche que depuis, il adore la petite Sarah. Il me dit qu'il n'y a rien de plus frais qu'un enfant. Parce que c'est sincère, spontané, vrai quoi. C'est ce qui reste de plus honnête dans cette société hypocrite et corrompue. Il a peut-être bien raison, Hamoudi. Il devient très réfléchi en ce moment. D'ailleurs, il cherche sérieusement du boulot. Enfin, à ce qu'il m'a dit. Il a besoin de se ranger un peu, parce que le deal, ça devient dangereux. Puis comme il dit, j'ai plus de 17 ans. Quand il dit ça, il a du regret dans les yeux. Je suis pratiquement au tiers de ma vie et j'ai rien fait. Que dalle. Je lui ai répondu que c'était pas trop tard et que s'il parlait comme ça, c'était peut-être parce qu'il avait peur de changer les choses. Je sais pas d'où j'ai sorti ça. Ça doit être à force de regarder les débats télévisés, genre « je suis cocu et ça me regarde ». Cela dit, c'est bizarre qu'Hamoudi en soit arrivé là, parce que dans sa famille, il a toujours eu pas mal de liberté. Il pouvait faire tout ce qu'il voulait. Il y a un seul truc qu'il pouvait pas faire. Pleurer, parce que c'était un homme et que le père d'Hamoudi dit que les hommes ne pleurent pas. C'est peut-être ça qui a joué. On se rend pas compte à quel point c'est important de pleurer. C'est déjà les grandes vacances. Cet après-midi, j'ai vu la famille Ali embarquer pour le Maroc. Ils ont une grande camionnette rouge et tous les ans, ils traversent la France et l'Espagne pour rejoindre le bled et y passer 2 mois. Je les regardais depuis ma fenêtre. Ils ont mis au moins 1 heure à tout préparer. Les enfants étaient bien habillés. On lisait sur leur gueule la joie et l'excitation de partir. Je les enviais. En tout cas, ils ont emmené une tonne de bagages. Les 3/4 des sacs doivent être remplis de cadeaux pour la famille, les amis et les voisins. C'est toujours comme ça que ça se passe. La mère Ali a même emporté un aspirateur, un Roventa dernier modèle. Elle va en jeter avec ça là-bas. En plus, ils vont voir leur baraque terminée. À mon avis, s'ils se sont fait construire une maison au bled en bouffant du riz et des pâtes à tous les repas pour envoyer des sous aux maçons, et si la mère embarque un aspirateur avec elle, c'est qu'ils ont l'intention de s'y installer. Les enfants, ça n'a pas dû leur effleurer l'esprit. Mais les parents, eux, ils doivent y penser depuis le premier jour où ils sont arrivés en France. Depuis le jour où ils ont fait l'erreur de foutre les pieds dans ce putain de pays qu'ils croyaient devenir le leur. Certains espèrent toute leur vie retourner au pays. Mais beaucoup n'y reviennent qu'une fois dans le cercueil, expédiés par avion comme de la marchandise exportée. Évidemment, ils retrouvent leur terre, mais sûrement pas au sens propre qu'ils voyaient la chose. Enfin, il y en a quand même qui réussissent à retourner là-bas, comme celui qui me servait de père avant. Sauf que lui, il est parti sans les bagages. Parfois, j'essaie de m'imaginer ce que je serais si j'étais d'origine polonaise ou russe au lieu de marocaine. Je ferais peut-être du patinage artistique, mais pas dans des concours locaux à 2 sous où on gagne des médailles en chocolat et des t-shirts. Non, du vrai patinage, celui des Jeux Olympiques, avec les plus belles musiques classiques, des mecs venus du monde entier qui notent tes performances comme à l'école et des stades entiers qui t'applaudissent même quand tu te votes comme un steak. De toute façon, le plus important, c'est de garder la classe. C'est vrai que le patinage, c'est vraiment trop fort. Les robes avec plein de paillettes, de voiles et de couleurs. Le problème, c'est que les filles, à cause des tenues, on voit toujours leurs culottes. Alors ma mère, ça lui plairait pas trop que je fasse du patinage artistique à la télé. Et puis si j'étais russe, j'aurais un prénom super compliqué à prononcer et je serais sûrement blonde. Je sais, c'est des préjugés de merde. Ça doit exister des Russes brunes avec des prénoms hyper simples à prononcer, tellement simples qu'on les appellerait rien que pour le plaisir de dire un nom aussi facile. Et puis, il y a peut-être même carrément certaines Russes qui n'ont jamais enfilé de patins de leur vie. Bref, en attendant, tout le monde se casse. Et moi, je vais rester au quartier pour surveiller la cité comme un chien de garde en attendant que les autres viennent de vacances tout bronzés. Même Nabil a disparu. Peut-être que lui aussi est parti avec ses parents en Tunisie. En tout cas, comme l'école est terminée, il reviendra plus m'aider à faire mes devoirs et rédiger mes dissertations. De toute façon, des dissertations, j'en ferai plus jamais de ma vie, à part s'il y a des sujets sur les brushings et les bigoudis. Ah ouais, je vous avais pas dit. Au lycée, ils ne peuvent pas me faire redoubler parce qu'il n'y a pas assez de place pour tout le monde. Et dans ce tout le monde, il y a moi. Alors ils m'ont trouvé une place à la dernière minute dans un lycée professionnel, pas trop loin de la maison, en CAP coiffure. Amoudi était très en colère quand je lui ai raconté. Il m'a dit qu'il allait les voir et se plaindre, contacter l'académie, gueuler après les administrations et d'autres trucs comme ça. Il a dit qu'ils n'ont pas le droit de décider à ma place. Je lui ai dit que de toute façon, je ne savais pas quoi faire et qu'on ne m'a jamais expliqué dans quoi il fallait que je m'oriente. Puis si ça se trouve, la coiffure, je vais adorer. C'est vrai ça, faire des permanentes à des très vieilles dames qui ont 3 poils sur le caillou et qui paient une fortune pour l'entretien de leurs cheveux, ça va me plaire, je le sens. Il y a une fille dans le quartier qui a fait un CAP coiffure. Comme elle n'a pas assez d'argent pour ouvrir son propre salon, mais qu'elle veut quand même travailler à son compte, elle fait de la coiffure à domicile. Ça marche bien. Quand il y a des mariages dans le quartier, tout le monde l'appelle. Les filles se font faire des brushings, se font archi-tirer les cheveux pour qu'on croie qu'elles les ont raides naturellement. Mais à la fête, au bout de 2 ou 3 danses, elles transpirent et quelques petites frisures les trahissent déjà. En parlant de mariage, il y en a un qui va bientôt y passer. C'est Aziz, notre fameux commerçant de Sidi Mohamed Market, l'épicier le plus radin de la terre. Je suis un peu dégoûtée qu'il se marie, parce que ça veut dire qu'avec maman, c'est cuit. Rachida, notre voisine qui est aussi la plus grosse commère que je connaisse, nous a dit qu'Aziz allait épouser une fille du Maroc. Je comprends pourquoi il y a autant de filles célibataires ici. Si maintenant les hommes commencent à se lancer dans l'import-export. C'est dommage que chez nous, les mariages ne se passent pas comme aux États-Unis, avec le prêtre qui dit la fameuse phrase « Si quelqu'un s'oppose à cette union, qu'il parle maintenant ou qu'il se taise à jamais. » Là, il y a toujours un mec hyper courageux qui ose interrompre la cérémonie parce que ça fait 8 ans qu'il est secrètement amoureux de la mariée. Alors il lui annonce et elle, la larme à l'œil, lui dit que c'est réciproque. Le marié qui est bon perdant, même s'il a un peu les boules, serre la main du mec hyper courageux et fait « sans rancune, vieux ». Puis il lui prête le smoking qu'il a loué très cher pour l'occasion et le type courageux épouse la fille à la place du marié bon perdant. Pour le mariage d'Aziz, maman pourrait faire la même chose. Elle dirait à Aziz que c'est le mec le plus romantique du quartier et qu'elle a des sentiments sincères envers lui depuis des années, malgré son crâne chauve et ses ongles un peu sales, un peu crado. Faut que j'arrête de me faire des films. Je sais qu'elle fera jamais ça. En plus, il y aura toute la cité au mariage d'Aziz. Et si maman fait ça, c'est la honte. En plus, c'est même pas sûr qu'il nous invite. Il nous a tellement fait de crédit qu'on n'a jamais remboursé. De toute façon, on nous invite jamais nulle part. Bien longtemps après les fêtes, les gens viennent voir maman pour s'excuser de l'avoir oubliée. C'est pas grave, maman et moi, on s'en fout de pas faire partie de la jet set.
Je n'attends plus rien de ce pays, ni des présidentielles. J'irai direct à l'essentiel. Qui nous a foutus au régime spécial, au régime essentiel. Je n'attends plus rien de ce pays, ni des présidentielles. J'irai direct à l'essentiel. Qui nous a foutus au régime spécial, au régime essentiel. Bande de fils de pute.
Tu veux serrer, mais les meufs calculent la caisse dans laquelle tu roules. Tu finis par connaître le nom des sites de boules. Tu rentres chez toi pour te garer, putain de sa race, y'a jamais de place. Le pays a besoin de fitness, le président ressemble à lui de funeste. Guerre entre cités HLM, mais mon frère, si t'étais né en face, aujourd'hui tu tirerais sur les gens que tu aimes. Que la banlieue devienne un sanctuaire. Moi c'est à elle que nous lendemain soient les architectes qui nous dessinent des archipels. On adresse email asphalte.fr. Le monde s'arrête au bout de la rue. Les petits n'ont même jamais vu un planisphère. Je veux pas m'y faire, je crève. Avec mon seum, parage des quins, fais des mois quart. Ton appétit, paras, arrête-moi ça. Ici, c'est côté périph' extérieur. Traitement spécial du point de vue du ministère de l'Intérieur. Et les autres aussi d'ailleurs. Y'a pas de mystère, ma gueule, mon gros, ma grosse. Soumis au régime essentiel, nos espoirs maigrissent.
Je n'attends plus rien de ce pays, ni des présidentielles.
Ouais. C'était prévu pour être du provisoire. On crève pas la dalle en France, mais mieux vaut y croire. Malgré tant d'efforts, tu t'éternises dans ta routine. Ce soir, steak et pâtes t'attendent à la cuisine. Au PMU, ça transpire la nicotine. Les larmes trompent leurs femmes avec gitane et bibine. Je vais pas trop dire que la vie est rallye. Qu'on vive tant que le SMIC, la CEDIC, l'RMI. Cette année, t'as pu mettre combien de fric de côté. Dès que je me casse le dos dans les vapeurs toxiques. Ré, ce sera pour l'an prochain le séjour sous les tropiques. Quoi, Saint-Tropez. Ok, clope au bec, ça taquine. Mais ça peut partir sec en live. Juste pour une place de parking. Le haut standing, ton plasma payé en 4 fois. Les promesses du chef d'état ne financent ni ton ventre, ni ton tosma, ni ta femme et ses rêves de duchesse. On finit par être plus proche d'un rock en cours. Un abo du Dalai Lama. Et dire qu'on croyait en nous avant Barack Obama. Un parcours avec des hauts et des bas. Toujours dans quelques affaires et deux trois plans en black payés comme un chinois. Mieux vaut croire en soi quand tu repars à zéro tous les 6 mois. Frérot, c'est juste une tête de lest pour la rumeur. On bavarde avec la famille, sans tiep sa vie, sans se faire piéger. STRASPG.
J'irai direct à l'essentiel d'un rap substantiel, potentiellement dangereux. On fera jamais partie des anges, ni d'ailleurs de ces gens heureux. Je la joue franc, je te parle franchement. Frangin, plutôt crevé que de foutre un bonnet phrygien. Ouais. Pour la France, je ne suis que chair à canon. Un de ces damnés de la terre, chair à Franz Fanon. Destiné à périr, à pourrir, à ne rien acquérir, même pas un sourire. Négro fier de son épiderme terne. Celui qui prend du ferme, des permes et qu'on interne. Espère, mais espère souvent dans le superficiel. Parce que forcé au régime essentiel. Trop de cris, trop de sang. Peu de globules blancs dans mes prises de sang. À cran d'arrêt pour être blessant. C'est pas si mal ici. On a la sécu et la démocratie. Et nique ta race aussi. N'attends plus rien de ce pays, ni des présidentielles. J'irai direct à l'essentiel. Qui nous a foutus au régime spécial, au régime essentiel. Bande de fils de pute. N'attends plus rien de ce pays, ni des présidentielles. J'irai direct à l'essentiel. Qui nous a foutu au régime spécial, au régime essentiel. Bande de fils de pute, n'importe plus rien de ce pays, ni des présidentielles. J'irai direct à l'essentiel. Qui nous a foutu au régime spécial, au régime essentiel. Bande de fils de pute, n'importe plus rien de ce pays, ni des présidentielles. J'irai direct à l'essentiel.
Dimanche matin, avec maman, on est allé au vide-grenier. Elle espérait trouver des chaussures pour elle, parce que dans sa pompe gauche, il y a un petit trou au niveau de l'orteil. Et quand il pleut ou quand elle marche dans l'herbe le matin, elle a les doigts de pied trempés. On marchait dans les allées du vide-grenier quand j'ai entendu des filles derrière nous. « T'es mal, la fille, habillée encore plus mal que sa daronne. Elle aussi, on l'a vidée du grenier. » Ouais, laisse tomber le vide-grenier pour elle, c'est les Galeries Lafayette. Elles ont commencé à pouffer de rire. Des petits rires mauvais, étouffés. J'ai regardé maman. Apparemment, elle n'avait rien entendu. Elle était concentrée sur une pochette de 45 tours de Michel Sardou. Sur la photo, il avait une grosse touffe quand même. On dirait que pendant les années 80, on a rapatrié tous les coiffeurs. On les a cachés dans une grotte et qu'ils ont commencé à réapparaître seulement au début des années 90. Bref, les deux pétasses qui ont dit ça derrière nous, je me suis même pas retournée pour les avaler toutes crues ou leur déchiqueter les narines. Non, j'ai fait comme si de rien n'était, comme si j'avais pas entendu. J'ai tenu maman par le bras, je l'ai serré parce que j'avais quand même bien la haine. Et puis j'ai senti les larmes me monter aux yeux et mon nez qui me piquait. J'avais très envie de pleurer, mais j'ai essayé de retrouver mon calme. Je me suis forcée parce que je ne voulais pas raconter ça à maman. Elle se serait sentie coupable. En plus, elle regardait des lots d'éplucheurs à 1 euro qui avaient l'air de l'intéresser pas mal. J'ai pas voulu la perturber. Dans ces moments-là, je voudrais être plus forte, avoir comme une carapace qui me défendrait toute ma vie, que plus rien ne puisse me faire mal. Toute la cité est venue au mariage d'Aziz. Ils ont organisé ça dans une grande salle des fêtes, à Livry-Gargan, avec un vrai orchestre de fesses, venu spécialement pour l'occasion. Aziz avait engagé 2 négafas. Ce sont des marieuses chargées de toute l'organisation de la fête. Décors, vêtements, maquillage, bijoux de la mariée, nourriture, tous ces trucs-là. C'était un super mariage. Il a vraiment mis la patate, Aziz. Enfin, à ce qu'il paraît, parce qu'effectivement, on n'a pas été invité. Madame Dutruc, l'assistante sociale de la mairie, on ne la voit plus parce qu'elle est partie en congé de maternité. Elle a dit qu'elle reviendrait après la naissance de son bébé. Ça m'a un peu énervé quand même. Ça m'a énervé quand elle a dit ça. Ça faisait un peu genre, de toute façon, dans 1 an, vous serez encore pauvre, vous aurez toujours besoin de moi. En plus, en attendant, on se coltine une remplaçante qui est chelou. Elle a tout le temps les yeux mi-clos derrière d'énormes lunettes, avec des verres en cul de bouteille et d'épaisses montures roses. En plus, elle parle très lentement, avec une voix d'épouvante. Le genre de voix que t'imagines en train de dire « Je suis la mort, suis-moi, c'est ton tour. » Mais bon, tout ça ne m'ennuie pas vraiment. Je m'en fous même carrément, à vrai dire. Ce qui me pose problème, c'est qu'avec elle, j'ai l'impression que maman et moi, on est de vulgaires numéros de dossier. Elle fait son boulot comme un automate. On dirait un robot programmé pour ça. Je suis sûre que si on lui gratte la peau du dos, qu'on creuse bien dans l'épiderme, on trouve une couche d'aluminium, des vis et un numéro de série gravé dessus. Moi, je l'appelle l'assistante cyborg. Cette semaine, je ne vais pas garder Sarah, parce que sa mère est en vacances et que toutes les deux, elles partent à Toulouse, chez la sœur de Lila. C'est dur d'être séparée des gens qui comptent pour nous. Je pense à tante Zora et à Youssef, et puis aussi à d'autres gens. À propos de tante Zora, elle a eu le courage de tout raconter au vieux fou, son mari. Il y a eu une violente dispute entre eux quand il a appris ce qui s'était passé, et ce vieux maboule a tapé sur tante Zora. Il s'est arrêté un moment parce qu'il n'en pouvait plus. Il avait trop mal au bras et des palpitations au cœur. Alors il s'est assis et lui a demandé un verre d'eau pour se désaltérer. Elle est allée lui chercher à boire, et ça s'est terminé comme ça. Elle nous a tout raconté. Chaque jour, elle prie Dieu pour qu'il retourne d'où il vient. Quand je pense qu'il y a encore quelque temps, maman priait pour que l'autre vienne. Ces temps-ci, je vois bien qu'elle est moins pensive. Elle a l'air mieux. Elle commence à lire quelques mots et elle est très fière d'écrire son prénom sans se tromper. Au début, elle faisait le S à l'envers, comme les bébés. C'est vrai que de temps en temps, je remarque qu'elle est soucieuse quand même, genre quand elle regarde la télé éteinte. Mais ça arrive moins souvent. Et puis elle est active et libre maintenant, alors qu'avant, c'était loin d'être le cas. Quand papa habitait chez nous, il n'était même pas question qu'elle travaille, alors qu'on était grave en galère de thunes. Parce qu'une femme pour papa, c'était pas fait pour bosser non plus. Au fait, Amoudi m'a annoncé hier qu'il avait trouvé du boulot. Il est tombé par hasard sur une annonce du Paris Boom Boom. Une entreprise de location de matériel IFI vidéo et informatique qui cherchait quelqu'un pour faire la sécurité. Il a tout de suite répondu, a eu un entretien, et voilà. Il a tout de suite été embauché. Bon, il trouve ça un peu chiant parce que c'est de nuit, mais il dit qu'il est content d'avoir trouvé un travail sérieux et que c'est mieux comme ça. Il dit aussi qu'il a l'impression d'avoir été embauché pour faire le chien de garde, mais ça, il s'en fout. Ça me fait penser à certaines maisons de la zone pavillonnaire où ils mettent des pancartes avec la photo d'un gros Doberman super flippant et une bulle qui dit « Attention chien méchant ». Alors que tout le monde sait que dans cette maison-là, le chien c'est un caniche nain nommé Pépère qui a une peur panique des enfants et des mouches. Voilà, nous sommes arrivés au terme du troisième épisode de la lecture de Kif Kif Demain de Faith Hagen, que nous remercions encore à rebours, car ce livre date de 2004, pour cet excellent ouvrage. Et le plaisir que nous prenons à le partager avec vous, chères auditrices et chers auditeurs. Nous avons pu écouter de haut en bas sur ma liste, et donc du début à la fin de l'émission, UB40, Food for Thought, Billy Paul, East, Ekwe et Bavard, Régime Sensiel. Et nous allons conclure l'émission avant de passer la main aux amis de Cannabis Circus avec Kyo Itachi et le Rama au Fokker pour un titre qui s'appelle ETA. Let's go. À bientôt.
Check. Kyo. Le rap, motherfucker. Motherfucker, motherfucker, motherfucker. Débute avec des coups comme le théâtre, les flics au basse comme le TA. Révèle mon côté noir, ce qui va m'abattre, c'est ni le tabac, ni le TH. Comme si c'était assez pour me mettre HS. Faut plus qu'une enquête menée par la PJ, plus qu'un assaut du GIGN. Check le génie génère, essayer de faire mieux, c'est pas la peine. Cheap, j'fous le feu dès que j'parle à peine, te laisse paraplégique. Tu sais, paraplégique,
dégage.
Oh, on m'a parlé d'un game. Donc je suis venu pour faire chouchou, chouchou. Sinon, tous les jours je roule et je m'isole comme si j'étais en trône. Tous les jours je rouille comme si j'étais en trône. Les yeux tous les jours rouges. Et c'est pas la mixomatos. Je suis le king, le micro master. Je kick, je nique le matos. L'ingé son en OD quand il mixe ma dope. J'ai pas du rap, je suis dans un hôtel. Ma fuck. Un putain d'autre délire, frérot. La vérité leur sautera aux yeux. La vérité en pleine force, la vérité leur sautera aux yeux. Comme un colis piégé, piégé. Comme un colis piégé, 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 piégé. Fox qui arrivera plus tard, le meilleur est présent, frérot. Le rap à fuck, le pire à venir, système en pyramide. Donc je brise la brique la plus basse, frérot, frérot. T'as pas idée de ce que mon couplet annonce. Ils refont le monde avec des si, nous, avec des si, on coupe des canons. Un gras, un MC, un maître de cérémonie funéraire. Une fumée d'herbe et j'oublie ce que furent mes rêves. Je voulais être guidé par le bon, mais l'idée de la bombe m'a pas quitté. Je sais pas où tirer, pardon, si t'es visé par le bon.
Mélange un bout au tabac, le boule au tabac. Je me tue au taf, je suis un bourreau de travail. Que s'il s'agit de guillotiner le patron, genre le P2, je tue l'amour, faut que tu l'avoues. Soutenu par les piliers, je suis la voûte. Je relève le niveau pour la cause. Toute une vie dans ma maquis, mon minot parlera corse. Je tiens le micro par la crosse. Je plombe, je démolis. Les raisons sont fondées, elles doivent traverser le temps comme les tombeaux des momies. Ma foi. La vérité leur sautera aux yeux comme un colis piégé.